Session de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 18 mai 1996, deuxième conférence.
Juste un petit détail pratique. Il y aura un petit changement d'horaire cet après-midi parce que je dois m'absenter pour un malade. Donc il y aura deux cours cet après-midi à 15h30 et 16h30. Et la réponse aux questions aura lieu ce soir après le dîner, parce que je dois m'absenter en fin d'après-midi. Donc vous noterez qu'il y a une conférence à 15h30 et une autre à 16h30. Et puis donc les groupes pour répondre aux questions ce soir à 20h30. Alors, il y a encore quelques questions, je réponds rapidement parce que je voudrais avancer. Je n'ai pas compris la phrase « Dieu en aimant rend bon celui qu'il aime ». Vous ne pouvez pas le comprendre, parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'est Dieu. Et vous voyez, c'est pour montrer que l'amour de Dieu est substantiel. Dieu comme créateur est source de notre être. Et en tant qu'il nous aime, il nous rend bon, puisqu'il nous crée dans son amour. Donc toute notre bonté personnelle, et je ne vais pas développer ça, parce que ce serait trop long, mais il y a Saint Thomas, quand il réfléchit sur ce que c'est que le bien, distingue, entre guillemets, trois dimensions du bien. Donc c'est un niveau critique, ce qu'il appelle la ratio boni, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le bien en tant que bien. Et il montre que le bien implique fondamentalement l'essai, donc l'être. Il y a en nous une bonté fondamentale, substantielle en tant que nous existons, que nous sommes créés par Dieu. Ensuite, il y a une certaine perfection. La bonté implique une certaine perfection, c'est celle de nos qualités, notamment de nos vertus. Et puis, troisièmement, la bonté implique la finalité. Et pleinement bon, celui qui est finalisé. Et c'est pour ça que, pour saint Thomas comme pour Aristote, l'amitié consiste plus à aimer qu'à être aimé. Ce que vous avez vu hier avec le père, Philippe. Ça a bien montré comment je n'aime pas l'autre en fonction du fait qu'il m'aime. Donc la réciprocité n'est pas ce qui mesure mon amour. Je l'aime pour lui-même. La réciprocité n'est qu'une condition nécessaire à l'amitié, mais ce n'est pas ce qui constitue l'amitié. Et donc, en aimant l'autre, je me finalise. Donc je deviens bon. Et ainsi, je suis capable d'attirer son amour. Vous voyez, il ne faut pas attendre d'être aimé pour aimer. C'est en aimant l'autre tel qu'il est. Vous devenez meilleur, vous devenez bon. Et ainsi, vous devenez capable de susciter aussi un amour. Et donc, je n'ai pas le temps de développer, oui, mais saint Thomas montre bien qu'on est fondamentalement bon en tant qu'on existe, et on est pleinement bon. Il dit « bonum simpliciter », nous sommes, c'est son expression, « bon de manière tout à fait simple, en tant que nous sommes finalisés ». Alors, donc vous voyez, ça montre donc bien, vous voyez, que Dieu comme créateur est source de notre être, donc il y a une bonté fondamentale en nous, en tant que nous existons. C'est pour ça qu'on peut dire, comprenez bien ce que je veux dire, c'est de la théologie ça. Le démon est bon en tant qu'il existe, parce qu'il est une créature de Dieu, c'est un ange. Mais il est mauvais dans sa volonté, et radicalement mauvais, parce qu'il a refusé complètement l'amour de Dieu. Mais en tant qu'il existe, il reste une créature de Dieu. Donc il a une certaine bonté de créature de Dieu, pas une bonté dans l'ordre de la volonté, comprenez bien. Il n'est pas, c'est, vous voyez, il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas dire le démon est mauvais dans son être. Mais non, il est une créature. Il est mauvais dans sa volonté. Et parce que c'est un ange, une volonté dans laquelle il est stabilisé éternellement. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier pour sa conversion. Bon. Alors, quelle est la place de la tendresse dans l'amour d'amitié? Je n'ai pas le temps de développer ça, c'est l'aspect comment l'amour d'amitié implique notre sensibilité. Vous voyez, il faudrait voir, vous voyez, comment l'amour d'amitié, qui regarde, qui implique un amour spirituel, donc volontaire. Alors je vous ai dit tout à l'heure, notre volonté ne s'exerce pas sans notre sensibilité. Donc notre sensibilité doit devenir humaine. Vous voyez, par elle-même, elle n'est pas proprement humaine. Les passions en nous ne sont pas proprement humaines, mais elles demandent d'être assumées par l'amour spirituel pour devenir vraiment humaines. Et donc, d'avoir une sensibilité qui soit vraiment humaine. C'est ça que permettent les vertus. Les vertus, ce n'est pas une loi ambulante, vous comprenez. Ça, c'est la vision stoïcienne ou kantienne. Il y a la justice en soi, la prudence. Alors, vous voyez, on devient une espèce de vertu ambulante, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui a avalé son parapluie. C'est pas le jour. Vous voyez. La vertu, c'est un équilibre par rapport à la finalité, c'est un sommet. Et donc, c'est assumer toutes nos capacités humaines au service d'un amour supérieur. C'est pour ça qu'Aristote dit que l'homme vertueux est plus sensible et plus passionné que l'homme qui n'est pas vertueux. C'est très très important et très beau. Oui. La vertu ne tue pas la sensibilité, elle l'assume et elle la rend plus humaine. Pourquoi ? Parce qu'elle la distingue davantage de l'aspect de l'instinct et de l'appétit naturel, qui lui, comme tel, n'est pas humain. Et donc c'est très important de voir ça, oui, que par les vertus, c'est l'amour spirituel qui assume toute notre sensibilité, donc d'irascible, oui. Donc oui, nos passions d'audace, etc., d'espoir et la colère. Et puis le concupiscible, l'amour passionnel, le désir, la crainte, la tristesse, etc. Donc toutes nos passions peuvent être assumées. Vous voyez, donc l'amour d'amitié n'est pas quelque chose d'inhumain. Ce n'est pas un amour, entre guillemets, platonique quand il y a amour spirituel. J'aime l'autre dans tout ce qu'il est. Vous voyez, ma sensibilité doit être assumée pour devenir vraiment humaine. C'est pour ça que c'est bien le problème de l'éducation qui est ici. Vous voyez. L'amour d'amitié exige une auto-éducation de nous-mêmes pour que notre sensibilité passionnelle soit assumée, devienne vraiment humaine. C'est le problème des vertus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute la question morale par rapport aux vertus, elle demande d'être reprise par rapport à l'amour d'amitié, à l'amour spirituel, et donc par rapport à une éthique de la finalité. Pourquoi ? Parce que quand j'aime l'autre concret. Donc ça touche ma sensibilité. Et un amour passionnel qui n'est pas rectifié finit par tuer l'amour d'amitié. Parce que c'est la passion qui prend le dessus. C'est-à-dire que l'amour spirituel doit assumer la passion. Donc, vous voyez, notre sensibilité passionnelle est ordonnée et rectifiée. Puis on va voir que dans l'éthique religieuse, elle est complètement assumée. L'adoration va permettre une rectification beaucoup plus profonde de notre sensibilité passionnelle. Vous voyez, c'est pour ça que même dans l'exercice de l'amitié, l'adoration va apporter une plus grande rectification de ce domaine. Et puis alors, il faut toujours distinguer, et ça c'est très important, vous voyez, ça, seul Aristote le fait, Freud ne le fait pas. Aristote distingue entre la vie sensible et la vie végétative, donc ce qu'on appelle l'instinct. C'est pas la même chose. Et, vous voyez, et il dit ceci, alors Aristote ne parle pas d'instinct, il parle d'appétit naturel. Appétit naturel pour la nourriture, appétit naturel à l'égard de la génération. L'un est au niveau de l'individu, l'autre au niveau de l'espèce. Et il dit, cet appétit naturel est déterminé ad unum, donc il a une finalité qui est au niveau de la nature. Ce n'est pas d'ordre du volontaire, c'est naturel. La vie sensible n'implique pas de finalité par elle-même. Elle est anarchique. Et c'est pour ça que, comme le père disait hier, c'est le terrain volcanique qui est en nous, les dimensions des passions. Et d'autant plus quand l'imaginaire s'y mêle. L'imaginaire est sensible, ce n'est pas spirituel. L'image est sensible. Et donc, vous voyez, l'imaginaire peut se mêler aux passions, ça devient, vous voyez, une espèce de tourbillon. La passion peut arriver à tout prendre, psychologiquement. Et puis, la vie de l'esprit, elle est finalisée par un bien spirituel. Donc, vous voyez, il y a donc, en nous, j'allais dire, la vie de l'esprit et la vie de l'appétit naturel au niveau végétatif impliquent une finalité, pas la vie sensible. C'est pour ça que la vie sensible, elle peut être ordonnée à la vie de l'esprit, et alors elle est, j'allais dire, vous voyez, comme haussée au niveau de la finalité spirituelle de la personne. Ou bien au contraire, elle peut se dégrader et être mise au service de la vie végétative, donc la passion qui est relative à l'instinct, et c'est juste, ou à l'appétit naturel, c'est justement ce qu'on appelle l'instinct. L'instinct, c'est les passions liées à l'appétit naturel. Et parce que le terme instinct en philosophie est très moderne, je crois qu'il apparaît avec Diderot, voyez, c'est extrêmement récent, 17e siècle. Et les théologiens parlent de l'instinct, mais de l'instinct divin, instinctus spiritus sancti, l'instinct d'esprit, c'est-à-dire cette espèce de force de l'Esprit Saint qui nous conduit. Alors oui, on a repris ça en philosophie pour dire l'instinct à l'égard de la nourriture ou l'instinct sexuel, c'est un exercice qui bloque l'aspect sensible et l'aspect végétatif, et qui n'est pas humain. Donc notre sensibilité demande d'être assumée au niveau de la vie de l'esprit. C'est très important. Tandis que sur la vie de l'appétit naturel, nous n'avons qu'un pouvoir, dit Aristote, un pouvoir politique. Je ne peux pas respirer volontairement. Oui. Oui, je fais des exercices de respiration. Très bien, oui, mais la respiration est naturelle. Elle est instinctive. Je ne peux pas digérer en faisant des efforts de volonté pour digérer mieux. Non, c'est naturel. Et je n'ai donc sur la vie végétative qu'un pouvoir politique. C'est-à-dire qu'un pouvoir, non pas direct, ma volonté n'a pas de prise directe sur l'appétit naturel. Uniquement sur son exercice, en tant que son exercice implique la dimension passionnelle. Et donc, sachant que ça touche des passions très fortes, il y a une prudence. Oui, oui, je ne développe pas, mais vous voyez bien. Est-ce qu'on peut dire que la jalousie, en quelque sorte, sauvegarde l'amour? Ah non. Ou est-ce qu'elle le tue? Elle le tue, la jalousie passionnelle. Et ne confondez pas la jalousie passionnelle qui fait qu'on veut accaparer l'autre, ou bien qu'on est jaloux de ce qu'il possède, avec la jalousie divine qui est que Dieu nous aime d'un amour de prédilection, chacun d'entre nous, comme si nous étions uniques au monde. C'est ça la jalousie divine. La jalousie divine, c'est que Dieu nous aime de manière unique, chacun. Et l'adoration implique qu'on rejoigne ce regard de Dieu. C'est comme si, vous voyez, c'est-à-dire que pour nous, voyez, nous sommes limités. Et donc, on introduit toujours une comparaison. Vous voyez, la jalousie, c'est introduire la comparaison de l'amour. C'est plus l'amour. L'amour est un absolu qui porte sur une personne. Dès que je compare, c'est plus l'amour. Ou bien alors, vous voyez, je reste au niveau du conditionnement. Ah, il m'a donné plus de temps qu'à l'autre. Ce n'est pas l'amitié comme telle, ça. C'est l'exercice concret. Et la jalousie n'est pas propre à l'amour. C'est une passion qui risque de l'abîmer. Ce que je veux accaparer pour moi. Alors, vous voyez, donc, la jalousie est exclusive. Elle est au niveau de la passion. Dit que l'amour spirituel n'est pas jaloux. L'amour spirituel, c'est aimer l'autre pour lui-même. C'est très important, vous voyez, parce que c'est... Alors, je suis d'accord, vous voyez, que... Au fond, il faut se poser la question, vous voyez, est-ce que seule l'adoration peut nous purifier de toute jalousie? Parce qu'on comprend que l'autre, il appartient à Dieu avant de m'appartenir dans l'amitié. C'est vrai qu'au niveau de l'amitié, il y a un certain droit. Parce qu'il y a une réciprocité. Donc, je peux demander, entre guillemets, des comptes à l'autre. Je peux dire, écoute, tu t'es engagé, qu'est-ce que tu fais? Et tandis que l'adoration, nous faisant prendre conscience que nous sommes chacun relatifs à Dieu comme créateur, nous apprend cette radicale humilité et me dépouille de tout accaparement par rapport à l'ami. Il appartient à Dieu avant que de m'appartenir. Et donc, c'est ça qui nous purifie vraiment de la jalousie. L'ami ne m'appartient pas. Et donc, ça sauvegarde la gratuité de l'amour. Là, c'est une question d'ordre pratique qui concerne la prière, donc je n'y réponds pas dans le cours de philosophie. Dois-je remercier Dieu d'exister comme personne ou plutôt d'être venu nous sauver? Oui, venu nous sauver, c'est l'éthique chrétienne, c'est la foi. Seule la foi me fait dire que le Christ est sauveur des hommes. En quoi est-ce mieux d'exister que de ne pas être? Ça, c'est Heidegger. Pourquoi donc y a-t-il de l'être et non pas plutôt rien? C'est comme ça qu'il commence son introduction à la métaphysique. C'est bizarre, oui. Parce que ça veut dire qu'il met le néant avant l'être. Donc, en quoi est-ce mieux d'exister que de ne pas être? C'est un fait. Oui. Alors, oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est que vous pouvez dire, oui, au fond, est-ce que c'est uniquement le hasard, alors? Oui. Et donc, c'est l'adoration qui me fait prendre conscience de ce fait, que je suis... en tant que j'existe, relatif au Père. Donc, vous voyez, c'est ça qui est source de l'abandon divin. Saint Thomas fait une remarque très juste. Il dit ceci. Il dit, pour la créature, puisqu'elle n'existe pas par elle-même, il y a, dit-il, un vertibile ad nihilum. On peut traduire comme un vertige vers le néant. Et on peut très bien se laisser prendre par ça imaginativement. C'est ça l'angoisse. C'est quand je m'inquiète du fait que, mais au fond, j'ai commencé d'exister à un moment donné, donc je ne suis pas nécessaire dans l'être, c'est vrai, mon être est contingent, puisque je n'existe pas par moi-même. J'ai commencé d'exister dans le temps. Dieu seul existe de toute éternité. Vous voyez, donc si je m'arrête un instant là-dessus, vous voyez, prendre conscience du fait qu'on n'existe que dans le temps, vous voyez, c'est un peu inquiétant, si vous regardez ça psychologiquement. Et ce qu'il y avait il y a 5 minutes, ça n'existe plus. Et qu'est-ce qui se produira dans 5 minutes? Je ne le sais pas. Je n'existe que dans l'instant présent. Et j'existe dans le temps, donc dans une succession, ce qui peut être source d'une angoisse fondamentale, vous voyez, d'un vertige vers le néant. Je suis néant avant d'être. C'est ce que dit Sainte Catherine de Sienne du point de vue mystique. La créature est néant avant d'être. Vous voyez que c'est intéressant de voir ça, parce que ça devient psychologique après. Vous voyez. Quand je m'arrête à ça, au niveau imaginatif, je dis, mais alors quoi? Je suis donc néant, je n'existe pas par moi. Oui, je tombe dans l'angoisse. C'est vrai que la seule lumière vraie pour voir ça, c'est l'adoration. Et l'adoration me fait comprendre qu'il y a un vertige vers le néant, mais ce n'est pas ça la vérité. Parce que le néant est un être de raison, il n'existe pas. J'existe en dépendance de l'être premier. Et je suis donc dans les mains de Dieu. C'est ce qui fonde, vous voyez, l'abandon divin. Vous savez ce que dit le psaume, le psaume je crois 135, mon âme est en moi comme un petit enfant tout contre sa mère. C'est l'adoration qui fait comprendre ça. C'est l'abandon. Et l'abandon divin, c'est comprendre que j'existe en dépendance de l'être premier qui me garde comme un père. Et donc, il n'y a aucune inquiétude. C'est pour ça que je dis que c'est bien ça qui nous purifie de toutes les angoisses psychologiques qui, imaginativement, nous font croire que nous sommes néants. Et donc c'est pour ça que vous devez cette question. Pourquoi est-ce que si mal existait que de ne pas exister, vous voyez ? Alors vous dites, au fond, c'est par le hasard que j'existe. Non, vous voyez, vous existez par un acte créateur de Dieu qui est unique pour chacun. Vous voyez. Notre âme spirituelle est créée pour chacun d'entre nous par un acte unique du Père. Il y a un acte personnel de Dieu comme créateur pour chacune de nos âmes. Et c'est ce qui fonde radicalement le respect que nous devons avoir les uns pour les autres. Et le respect qu'on doit avoir pour tout homme. Aussi bien au début de sa vie, vous voyez, c'est la question de l'avortement en éthique religieuse est une question qui se pose comme ça. Si l'âme spirituelle est créée par Dieu dans l'embryon, je n'ai pas le droit de m'en occuper. Je n'ai pas le droit d'aller contre cela, c'est la sagesse de Dieu. Et donc c'est bien plus, vous voyez, dans une éthique humaine, on dira, vous voyez, que c'est atteindre l'amour d'amitié, parce que j'atteins une personne qui pourrait être un ami, donc c'est un manque de justice complet. Dans une éthique religieuse, non seulement j'atteins quelqu'un qui pourra être une personne, mais je blesse la sagesse de Dieu, et puisque je vais contre un acte créateur de Dieu qui crée l'âme spirituelle dans un embryon. Et c'est pour ça que je dis que ça fonde le respect. La question n'est pas tellement celle de la personne, mais celle de l'âme. Si l'âme est créée par Dieu, par un acte unique dans l'embryon, je n'ai pas le droit, ce n'est pas en mon pouvoir d'intervenir là. De même pour la fin de la vie de l'homme. Parce que la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Ça ne m'appartient pas. L'âme n'appartient qu'à Dieu, l'âme spirituelle. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Que ça ne peut pas être un primat du hasard. C'est vraiment, j'existe en dépendance de l'être. C'est ça que l'adoration me fait comprendre. Du point de vue philosophique, la découverte de l'existence d'un être premier créateur ne peut-elle pas, nous faire dire que cet être créateur de tout ce qui existe serait de fait créateur du mal? Non, parce que le mal, c'est le défaut par rapport au bien. Oui, ça, c'est une vision dialectique. Et il y a deux positions là-dessus, trois même. Il y a le manichéisme qui dit il y a deux dieux, le dieu créateur du bien et le dieu créateur du mal. Donc vous voyez, on sait, il y a deux mondes qui s'opposent. Ou bien je dis, le mal n'existe pas. Voyez, ou bien je comprends, vous voyez, que ce qui est important, c'est de voir ce que c'est que le mal. Le mal, c'est relatif au bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un mal? Un mal, c'est un défaut, voyez, un defectus par rapport à un bien. C'est donc négatif. C'est pour ça que saint Thomas dit que le mal n'a pas de cause propre. Oui, c'est pour ça avec ce qu'on entendait hier au réfectoire, ça n'a aucun sens, certaines choses qu'on a entendues. Quand il est dit, on cherche la cause d'une maladie, alors il y a des cancers qui ont comme cause ça. Mais non, le mal n'a pas de cause propre, il est anarchique. Et d'où la difficulté de la médecine. La médecine, avant d'être une science, elle est un art. Et or là, regarde le singulier. Vous savez ce que dit Aristote? Il dit, il ne s'agit pas de guérir l'homme en soi n'existe pas. Il s'agit de guérir tel homme, l'individu. C'est Socrate atteint de cette maladie. Et il n'y a pas de science du mal. Le mal n'a pas de cause propre. Il y a une science de l'homme en bonne santé. Ah oui, ça d'accord. Qu'est-ce que c'est que la santé pour l'homme? Et dans cette lumière, j'essaie d'avoir autant que je le peux un regard sur le mal qui est un défaut par rapport au bien. J'essaie de saisir d'où ça vient, mais il n'y a pas de cause propre. Pour ça, il n'y a pas de science de la maladie. Mais il y a une connaissance de l'homme dans sa santé. C'est très important. C'est ce que dit l'OMS, là, il y a quelque chose de... Parce qu'on vit dans ce monde, et où tout est un peu renversé. On définit la santé par la maladie, c'était quelque chose de terrible. L'OMS définit la santé comme ça. L'absence de toute maladie est la recherche du confort le plus grand possible pour l'homme. C'est comme ça qu'on le préambule de la charte de l'OMS. Mais c'est faux, ça. Et la santé n'est pas l'absence de maladie, c'est la maladie qui est l'absence de la santé, et c'est pas la même chose. La santé est un bien, c'est positif. Et je connais la santé par rapport à une personne. Le mal, c'est une atteinte anarchique par rapport à un bien qui devrait être un bien. Oui. C'est comme affirmation et négation. Voyez. Qu'est-ce qui vous connaissez en premier lieu? L'être ou le non-être? Pour Aristote, le non-être est un être de raison. Il est donc relatif à l'être. Et non pas le non-être qui est premier. Voyez. Celui pour qui le non-être est premier, c'est Sartre. Pour Sartre, le néant est premier. Donc c'est le primat de la négation. Ça vient de la dialectique hegelienne. Pour Hegel, affirmation et négation sont au même niveau. Donc il va jusqu'à dire que la vérité, c'est la somme des erreurs. Il veut quand même le faire. Oui. Mais est-ce que vous définissez la vérité par l'erreur ou l'erreur par la vérité? L'erreur, c'est l'absence de vérité, c'est se tromper, c'est ne plus rejoindre le réel. Mais la vérité, c'est le bien de l'intelligence. Et vous ne définissez pas la vérité par l'erreur. Et c'est très important, oui, de voir ça. Donc, comprenez bien, oui, hein, c'est, votre question n'a pas de sens quand vous dites ça. Parce que oui, Dieu est créateur du mal, mais le mal n'est pas une entité existante. Il existe, mais il est un defectus. Oui. Le mal comme tel, c'est quoi? C'est un defectus par rapport à un bien. Donc c'est un désordre. C'est anarchique. Il n'y a pas de science du mal. Il faut être très très net là-dessus. Parce que vous voyez, aujourd'hui, on voudrait avoir une science du mal. Mais on ne peut pas l'avoir. C'est pour ça que la médecine, d'abord, est beaucoup plus exige une certaine science qui est la connaissance de l'homme en bonne santé. Il y a une connaissance de l'homme, la médecine. Oui, elle implique une connaissance de l'homme. Mais de l'homme tel qu'il doit être. Et dans cette lumière, il y a un aspect artistique qui essaye d'agir efficacement contre le mal qui vient détruire ce bien, qui est un équilibre et qui est unique pour chacun. Il n'y a pas une science en soi. Donc, il faut faire attention à ça. Oui. Alors, c'est une recherche, je dis ça très rapidement. Donc, il y a beaucoup de métaxus, c'est-à-dire d'intermédiaires qui sont que je dis très rapidement. Et vous voyez, je donne un axe. Hein. C'est, en philosophie, c'est immédiat. Parce que le mal n'a pas d'intelligibilité propre. Prenez l'exemple. Oui, hein. L'amour et la haine. Est-ce que vous définissez la haine par l'amour ou l'amour par la haine? Est-ce que l'amour, c'est l'absence de haine? Bien que la haine, c'est au contraire une lutte contre l'amour, vous voyez. Or, c'est pas au même niveau. L'amour, ça fait comprendre la finalité de l'homme. La haine n'est pas au même niveau. Donc c'est pour ça que c'est très important à bien voir. Et tout vient fondamentalement du lien entre l'être et le non-être. Donc du lien entre affirmation et négation. Donc du lien entre vérité et erreur. Et pour Aristote, l'erreur n'est pas une connaissance intellectuelle. C'est très important à bien comprendre. Or aujourd'hui, on croit que vérité et erreur sont au même niveau. Mais non, l'erreur n'est pas un bien de l'intelligence. Être dans l'erreur, c'est quoi? C'est ne plus rejoindre le réel existant. Donc ce n'est pas une connaissance intellectuelle. L'erreur est imaginaire, toujours. C'est l'imaginaire qui engouffre l'intelligence, vous voyez, qui ouvre la gueule. Et l'intelligence est absorbée dedans. Et c'est important de bien voir ça, vous voyez. L'erreur n'est pas une connaissance intellectuelle. Il n'y a de connaissance intellectuelle que vraie. Puisque l'intelligence ne s'épanouit que face à ce qui est, en tant qu'elle rejoint ce qui est. La vérité est le bien de l'intelligence. Être dans une erreur, c'est ne plus être au niveau de l'intelligence, on reste au niveau imaginatif, parce qu'on ne rejoint plus le réel. Donc il y a des multiples causes à ça. Mais l'erreur n'est pas une connaissance, il faut bien voir ça. Donc vous voyez bien. Alors, pouvez-vous revenir sur le passage entre l'acte d'adoration, qui est un acte personnel, et la liturgie, qui est un acte communautaire en éthique religieuse? Je vais y revenir tout à l'heure. Y a-t-il nécessairement une dimension communautaire liturgique? C'est un fait. Oui. Donc, et Platon fait cette remarque au début de son livre sur les lois. Il commence le traité des lois, qui est la dernière œuvre que Platon a écrite, et qui est une œuvre de vieillesse et qui reste inachevée. Et Platon dit que la première loi qu'on doit faire, c'est la loi qui concerne le culte dans la cité. Parce que, dit-il, c'est la chose la plus importante pour l'homme. Et donc la première chose qu'on devrait voir, c'est on devrait voir ce que c'est que la dimension religieuse dans la cité. Et quand on dit aujourd'hui, ce sont les méfaits de la laïcité, on dit ça couramment. Oui, le domaine public, c'est laïque. La dimension religieuse, c'est la sphère privée. Mais c'est pas vrai. La liberté religieuse exige, enfin, commande qu'elle puisse s'exprimer à l'extérieur librement. Et donc, vous voyez, l'État et la cité devraient être garantes de la liberté religieuse et la liberté de culte. Mais si c'est une liberté de culte authentique, vous voyez, si c'est un culte authentique, parce que c'est le grand débat actuel par rapport aux sectes. Est-ce que le pouvoir politique a un rôle par rapport aux sectes? Oui, en tant que c'est une déviation de l'attitude religieuse, donc vous voyez, l'homme politique devrait savoir ce que c'est que le religieux par rapport à l'homme, pour en être garant, si c'est un bien de l'homme. Et donc, le fait, la dimension liturgique, donc du culte public par rapport à Dieu, c'est en tant que la dimension communautaire est transformée par l'attitude religieuse. Donc pourquoi? Et justement, vous voyez, parce qu'on a vu tout à l'heure l'intériorité de l'adoration qui s'exprime par rapport au corps, qui implique l'aspect extérieur. On l'a vu hier, le corps est ce qui fonde la communauté politique. Si nous sommes dans une cité, c'est fondamentalement à cause du corps, ce qu'a déjà compris Platon. Et ce que reprend Aristote quand il montre que le bien commun se fonde sur la nature et non pas d'abord sur la personne. C'est très important de voir ça, oui. Il y a une nature humaine. Et le législateur, il devrait avoir une connaissance de ce qu'est la nature humaine et de ce qu'est son bien, pour y aider. La loi a un rôle éducatif. Elle dispose. Et on en est loin aujourd'hui, hein, c'est évident, parce que la loi consiste aujourd'hui à authentifier une situation de fait que tout le monde fait. Donc, on dit, bon, puisque tout le monde le fait, rendons-le légal, parce que ça évite que... Et c'est complètement une corruption de la loi. La loi a un rôle de rappeler le bien. Donc elle devrait, pour l'homme qui est dans telle situation, autant qu'il le peut, l'aider à s'orienter vers son bien. Elle doit faire grandir, normalement. Et la vraie politique devrait être ça. Non, je ne développe pas, parce que ce serait une session de philosophie politique. Y a-t-il une politique religieuse? Bon. Alors je continue. Donc j'ai dit tout à l'heure, je voudrais montrer un petit peu maintenant ce dépassement et cette manière dont l'adoration, qui est l'acte religieux fondamental, nous ouvre à une attitude contemplative. Et donc, je crois ce point très important, parce que vous voyez, ça consiste à bien saisir la différence entre l'adoration, qui est le fondement, ce qui nous ouvre à l'attitude religieuse, et puis la contemplation, qui va seule permettre de découvrir une nouvelle finalité. Autrement dit, vous voyez, l'adoration sans la contemplation ne peut pas complètement finaliser l'homme. C'est une adoration qui s'ouvre à la contemplation, qui peut seule nous faire découvrir une nouvelle finalité, donc une éthique religieuse pleinement structurée. Pourquoi ? C'est très important à comprendre ça. L'adoration, je vous ai dit hier, c'est un fondement parce que c'est un absolu dans notre vie pratique. Donc, ça nous met dans une vérité pratique fondamentale. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui nous stabilise. L'adoration stabilise. Tandis que la contemplation qui jaillit l'adoration va finaliser notre personne humaine de manière nouvelle. Oui, pourquoi ? Parce que dans la contemplation, je comprends comment mon intelligence, dans sa recherche de la vérité, vous voyez, l'intelligence, on pourrait dire, spéculative, l'intelligence, dans sa soif de vérité, cherche à connaître celui que j'adore. Je ne peux pas me contenter d'être en sa présence. Si je l'aime, je veux connaître celui que j'aime. Je cherche à le connaître. Et donc, vous voyez, le passage d'adoration à la contemplation vient du fait qu'il y a un appétit radical de vérité qui demande de s'exercer par rapport à ce nouvel amour, par rapport à Dieu. Et là, il y a quelque chose de tout à fait propre à l'éthique religieuse. Parce que dans l'ordre de l'amour d'amitié, je ne peux jamais dire que mon ami est pour moi la mesure de la vérité. Je n'ai pas le droit de dire ça. Je l'aime. L'amour d'amitié implique un amour spirituel réciproque, un véritable choix. Donc il est bien une fin. Mais il ne peut pas être la fin ultime pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas être la mesure de mon appétit de vérité. Je ne peux pas dire « parce que je t'aime, tout ce que tu dis, c'est la vérité ». Mais non. L'amour pour une personne exige, si on l'aime vraiment, qu'on comprenne, et c'est partie de la justice et du respect plénier de l'autre, qu'on comprenne que l'ami ne peut pas être pour moi mesure de la vérité. Et ce qu'a très bien compris Aristote. Au début de l'éthique à Nicomaque, il dit ceci. Pour nous, c'est d'autant plus difficile, dit-il, que ce sont des amis qui ont introduit la doctrine des idées. Or, si on est philosophe, c'est un devoir sacré de préférer la vérité à l'amitié. C'est très extraordinaire, ça. Et c'est être fidèle à l'amitié pour Platon que de dire que Platon s'est trompé. Je ne vais pas, au nom de l'amitié, dire à l'autre, oui, tout ce que tu dis, c'est extraordinaire. On entend ça, c'est des louanges extraordinaires. On dit, attendons le lendemain, parce que le lendemain, ça va être juste l'inverse. C'est souvent très passionnel, ça. Il est si extraordinaire, si merveilleux. Alors on fait la litanie, vous voyez, toutes ses qualités. Alors ça vient du... On bêtifie, vous voyez. Et puis le lendemain, comme on a été déçu parce que tout d'un coup il a fait quelque chose qui ne nous plaisait pas, il a tous les défauts du monde. C'est passionnel ça. L'amour d'amitié exige qu'on comprenne en toute lucidité que l'ami, si profondément qu'on l'aime, il n'est pas la vérité. Il cherche la vérité avec moi, mais il n'est pas la vérité. Donc il n'est pas mesure de mon intelligence cherchant la vérité. Je ne peux donc jamais, au nom de l'amitié, abandonner la recherche de la vérité. Ça, ce serait trahir quelque chose de la personne humaine. Et c'est l'éthique religieuse qui nous fait comprendre. Voyez ? Parce que l'adoration, nous mettant face à l'être premier, au bien premier, souverainement bon, mais fait aussi saisir dans l'amour que Dieu, s'il existe, est nécessairement la vérité première. Et donc, il n'y a qu'en Dieu que amour et lumière se rejoignent parfaitement. C'est très important à comprendre, voyez ça. C'est pour ça que l'adoration, qui est cet amour pour Dieu, exige la contemplation. Il est non seulement le bien premier, il est la lumière. Dieu est lumière, il est la vérité première. Et donc, lui seul peut donner à mon intelligence avide de vérité une satisfaction parfaite, donc un repos plénier. Et mon intelligence faite pour la vérité ne peut trouver son repos plénier que dans la contemplation de Dieu qui est la vérité première. Et donc, c'est très beau, vous voyez, parce que ça me montre comment l'adoration est cet amour, vous voyez, qui me met en présence de Dieu. Et dans cette présence, il y a comme un regard, voyez, ou comme un toucher, hein, parce que c'est un jugement. Voyez. La contemplation, c'est un jugement de l'intelligence, hein, qui cherche, qui adhère à cette vérité première, Dieu qui est présent à moi-même et que j'adore. Dans l'adoration, il y a cette soif de connaître qui il est. Et c'est avant tout dans un toucher. Parce que c'est dans un jugement intellectuel sans aucune appréhension. Il n'y a pas de concept de Dieu. Je ne peux pas avoir un concept de Dieu parce que Dieu est infini. C'est contradictoire par être concept de Dieu. Parce que le concept, c'est le fruit de mon intelligence. Oui. Je ne peux pas assimiler ce qu'est Dieu. Mais l'adorant, l'adoration me met en sa présence. Et parce que je sais qu'il est présent à moi-même, je sais qu'il me regarde, qu'il veille sur moi. Et donc, je cherche à vivre en sa présence. Et c'est ça la contemplation. C'est vivre dans ce regard, dans cette attente, dans ce jugement intellectuel où j'adhère à lui, en sachant qu'il est le bien premier, la vérité souveraine, un être tout à fait simple, le créateur de mon âme, celui qui est le père de mon esprit, etc. Oui, mais ça n'est pas savoir ce qu'est Dieu, ça vous comprenez. C'est chercher à le connaître, mais sans assimiler ce qu'il est. Je ne peux pas savoir ce qu'est Dieu. Mais c'est évident, il n'y a pas de concept de Dieu. Je ne peux pas l'assimiler. Oui, donc il y aurait donc, vous voyez, ce... Et quand on est en philosophie, hein, on distingue dans l'intelligence trois opérations. Vous voyez, donc l'appréhension, je note ça, l'appréhension, le jugement et le raisonnement. Et c'est très important, ça c'est une pièce maîtresse de toute l'histoire des philosophies. Selon la manière dont on conçoit les rapports entre ces trois opérations, on a une théorie de la connaissance qui est toute différente. Alors, vous voyez, quelle est l'opération parfaite pour l'intelligence? C'est le jugement, parce que le jugement seul atteint la vérité. Vous voyez, l'opération parfaite de notre intelligence, c'est le jugement, qui est une opération qui implique un mode d'adhésion. Vous voyez, dans le jugement intellectuel, j'adhère à l'exister de la réalité. C'est pour ça qu'Aristote dit, le jugement, c'est comme un toucher, tigain, hein, comme un toucher de l'intelligence, qui adhère au réel. Et par exemple, quand je dis, ceci est, c'est un jugement. Ou bien je dis, Pierre est un homme, c'est un jugement. J'énonce une vérité. Et si ce que je dis est vrai, c'est-à-dire c'est conforme au réel. Donc j'exprime par mon langage, hein, l'adhésion de mon intelligence à l'existence de la réalité. Au contraire, l'appréhension et le raisonnement, c'est l'aspect, oui, rationnel de l'intelligence humaine. Donc vous voyez, c'est du côté du mode. L'intelligence humaine, parce qu'elle est liée au sensible, à un mode rationnel. Elle doit donc appréhender les déterminations de la réalité. Et ça, c'est du côté du concept. Et si nous, j'allais dire, hein, si nous fabriquons des concepts, c'est notre conditionnement intellectuel. C'est le propre d'intelligence humaine rationnelle. Parce que nous commençons à connaître à partir du sensible, nous devons abstraire pour connaître. C'est notre pauvreté intellectuelle, ça, vous voyez. L'abstraction n'est pas une qualité. C'est le signe de la fragilité de l'intelligence humaine, qui, connaissant à partir du sensible, doit abstraire pour passer à un niveau intellectuel. Oui. Je rencontre uniquement Pierre, Paul, Jacques. Puis je passe à homme. Je dis Pierre est un homme, Paul est un homme, Jacques est un homme. Il y a une abstraction, vous voyez. Je saisis ce qu'est l'homme à partir de l'expérience de multiples hommes. C'est donc mon conditionnement intellectuel. Et puis le raisonnement, c'est du côté de la croissance. Je fais des raisonnements, vous voyez, philosophiques, mathématiques, scientifiques, etc., pour progresser dans la connaissance. Vous voyez. Un raisonnement, c'est passer d'un principe à une conclusion, par exemple. J'ai un théorème, ou bien j'ai un axiome, et au nom de cet axiome, je déduis des conclusions. C'est un raisonnement qui me fait connaître de nouvelles choses. Bon, vous voyez que c'est aussi du côté de la croissance. Hein? Donc c'est important de voir ça, vous voyez, que la contemplation à l'égard de Dieu, elle ne peut être que dans un jugement, parce que c'est une adhésion à l'exister de l'être premier qui m'est présent comme un père, ce que je sais dans l'adoration. Et donc que je cherche à connaître. Oui. C'est pour ça que la contemplation philosophique nous mettra avant tout dans une attente. Oui. Et là, ce que dit Heidegger est juste. C'est, Heidegger dit ceci. Il dit, le philosophe, il est dans l'attente de la révélation de l'être. C'est faux par rapport à l'être, mais c'est vrai par rapport à Dieu. La contemplation philosophique, c'est une attente. Dans l'adoration, où je vis de cette présence de Dieu comme Père, je cherche à le connaître, mais je ne peux pas l'assimiler. Donc je suis comme suspendu. Et c'est l'expression que prend Aristote. Aristote dit, à un tel être sont suspendus le ciel et la nature tout entière. Et oui, c'est ça qui nous fait comprendre l'adoration. L'adoration nous met dans cette attraction de l'amour par rapport à ce bien premier. Donc nous sommes comme suspendus, attirés par lui. Et c'est dans cette attraction qu'il y a ce regard sur cette présence de Dieu par rapport à moi. Et c'est une contemplation naturelle, hein, je ne parle pas ici des contemplations mystiques. Ça, c'est le point de vue chrétien. Naturellement, il y a une contemplation philosophique qui est très pauvre. Vous voyez, je ne peux pas saisir ce qu'est Dieu. Je n'atteins Dieu ni dans un concept, ni dans un raisonnement. Vous voyez. Et ça, on voit ici les erreurs. Vous voyez. Celui qui prétend qu'il y a un concept de Dieu, vous voyez, c'est Descartes. Descartes se met le doigt dans l'œil. Ce qui prétend qu'on connaît Dieu par un concept, par une idée. L'idée, il prétend qu'on a l'idée d'infini. C'est son raisonnement. Je suis un être fini, or j'ai l'idée d'infini. Cette idée d'infini ne peut pas venir de moi-même, donc elle a été mise en moi par un être infini, qui est Dieu. Et ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a pas d'idée d'infini. Vous voyez, donc tout est vicié du point de départ. Il n'y a pas de concept d'infini, parce que le concept vient de mon intelligence. C'est imaginatif, vous voyez. Donc ça, c'est l'erreur de Descartes, qui ramène tout à l'appréhension. Et celui qui ramène tout au raisonnement, c'est Hegel. Pour Hegel, la contemplation se ramène à un raisonnement. Et c'est un raisonnement circulaire. Et il dit textuellement, vous voyez, c'est extraordinaire. Hein. C'est pour ça que je crois que la pensée hegelienne, c'est la destruction la plus radicale qui soit de la contemplation. Hein, parce qu'il dit ceci, il dit, quand nous connaissons le rythme de l'esprit, c'est cela la contemplation du mouvement dialectique. Et ainsi nous sommes spectateurs de l'esprit dans son développement immanent en lui-même. Et donc Hegel ne cherche plus à connaître Dieu qui nous attire, mais le mouvement de son esprit qui est uni à Dieu intentionnellement. C'est un raisonnement dialectique. Et il va jusqu'à dire ça, vous savez, c'est très extraordinaire. Il dit, quand on dit que l'intelligence est divine par son objet, c'est ce que dit Aristote, oui, c'est ce que je vous dis ici. Quand je dis que la contemplation c'est un jugement, ça veut dire que l'intelligence, dans sa fine pointe, adhère à Dieu comme être premier. C'est ça la contemplation. Et c'est dans l'obscurité, hein. Je ne sais pas ce qu'est Dieu, mais je suis en sa présence et j'adhère à lui, je cherche à le connaître. Et c'est donc une pauvreté. L'intelligence n'est pas substantiellement contemplative, la nôtre. Donc vous voyez, quand il dit, quand on dit que l'intelligence est divine par son objet, c'est-à-dire qu'elle est faite pour contempler Dieu, c'est là une erreur manifeste. Le divin, c'est l'effectuation dans son ensemble. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est donc l'esprit qui se connaît lui-même qui est divin. Voyez, hein, donc c'est une espèce de raisonnement immanent. Vous voyez, c'est un pur mouvement dialectique. Le divin, c'est l'efficience dans son ensemble. Vous voyez. Or, le raisonnement, c'est l'efficience de l'intelligence. Elle est capable de grandir par elle-même. Oui, c'est intéressant parce qu'on est face à ces penseurs-là. Hein. Et redécouvrir une vraie contemplation philosophique, c'est pas commode. Oui, ça exige de comprendre ce que c'est que l'adoration. Oui, l'adoration seule nous rectifie. Parce qu'elle nous fait comprendre que nous ne sommes pas substantiellement contemplatifs dans notre intelligence. Pourquoi ? Parce que nous sommes une créature. Donc nous ne possédons pas la contemplation. Dieu seul est contemplatif par nature. Et je vous lis un texte d'Aristote qui lit textuellement. Et donc nous ne pouvons vivre de la contemplation qu'en nous appuyant sur l'adoration, qui est un amour qui nous met en présence de Dieu. Et ce dont nous vivons, c'est de Dieu qui se contemple lui-même. Autrement dit, voyez, la mesure de notre contemplation de Dieu, c'est la contemplation éternelle que Dieu a de lui-même. C'est tout à fait juste, vous voyez. Dieu seul se connaît parfaitement. Dieu seul se contemple. Et donc la mesure de notre contemplation de Dieu, c'est la contemplation que Dieu a de lui-même. Et cela, c'est l'adoration qui nous met face à cela, qui nous fait prendre conscience que nous ne possédons pas notre vie intellectuelle. Et donc, hein, le fruit de l'adoration, par rapport à notre vie intellectuelle, c'est de nous faire comprendre la pauvreté de l'intelligence humaine. Je ne possède pas la contemplation, j'en suis mendiant. Et ce que déjà Platon avait saisi, hein, Quand Platon montre que l'amour nous fait mendiants, il est fruit de la pauvreté. Donc, l'adoration nous fait vivre de cette pauvreté que nous sommes une créature, et que notre intelligence est reçue. Elle n'est donc pas celle qui possède sa propre vérité immanente en elle-même. Et quand il s'agit de la contemplation, elle ne peut qu'être relative à Dieu qui se contemple éternellement lui-même. La contemplation, c'est la vie propre de Dieu. Et c'est la nôtre dans la fine pointe de notre intelligence qui, grâce à l'adoration, est en présence de cette vie de Dieu et qui cherche à y adhérer. Mais nous ne la possédons pas. Je crois très important de bien voir ça. Voyez. J'allais dire, vous voyez, c'est donc l'adoration qui permet de remplacer, en quelque manière, l'évidence. Voyez. Nous n'avons pas la vision de Dieu. Nous ne l'expérimentons pas. Donc nous le contemplons dans l'obscurité. Mais humainement, je ne parle pas de la foi ici, je parle de la philosophie. Nous n'avons pas l'évidence de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il est. Donc nous le contemplons grâce à l'adoration. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'au niveau religieux, l'amour enveloppe l'intelligence. C'est grâce à l'amour d'adoration que nous pouvons en quelque manière être comme en présence de Dieu et ainsi être dans l'attente, ouvert à sa vérité. Mais nous ne savons pas ce qu'il est, mais nous n'avons pas une vision intellectuelle. C'est très important, et c'est ce que dit saint Thomas. Saint Thomas dit, par rapport aux réalités inférieures à nous, il vaut mieux les connaître que les aimer. Le petit chien. Parce que quand je connais le chien, je l'en oublie. Donc le savant qui connaît le chien, le savant biologiste qui connaît le chien, il en oublie le chien. Parce que le chien, dans la pensée humaine, il est plus noble en tant qu'il est connu par l'homme qu'en lui-même. Il est élevé au niveau d'une connaissance intellectuelle, c'est extraordinaire. Par contre, dit saint Thomas, pour les réalités supérieures à nous, il vaut mieux les aimer que les connaître. Parce qu'en les connaissant, je les ramène à mon conditionnement rationnel. Et donc, ça veut dire quoi? Que seul l'amour d'adoration nous fait quitter notre mode rationnel d'appréhension et de raisonnement pour être dans un pur jugement sans rien saisir. C'est très exigeant ça. Connaître dans un jugement, dans une adhésion, donc dans une attente, en étant comme suspendu, sans rien saisir de ce qu'il est. Je ne peux pas assimiler Dieu, je ne peux que le contempler. Je ne peux pas avoir un concept de lui, je ne peux pas raisonner sur Dieu. Je ne peux que être suspendu à lui, dans l'intelligence. C'est pour ça que le fruit ultime, c'est très beau, parce que vous voyez, ça c'est l'ouverture à l'éthique chrétienne. Vous voyez que c'est très fort. Si la contemplation philosophique, c'est l'adoration qui met dans cette espèce d'attente, si Dieu se révèle, c'est pour moi la plus grande joie, parce que je ne peux pas savoir ce qu'il est. Et si c'est Dieu qui vient à moi, voyez, l'adoration contemplative en philosophie me dispose à recevoir la révélation de Dieu. C'est pour ça que c'est dans une attente. Et celui que j'aime, je voudrais le connaître, mais je ne suis pas capable de le voir par moi-même. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de désir naturel de voir Dieu en philosophie. Quand saint Thomas dit que l'homme a un désir naturel de voir Dieu, c'est un jugement de théologien qui regarde l'intelligence humaine par rapport à la vision béatifique. C'est donc la puissance obédientielle. Hein. Je dis ça pour ceux qui sont un peu au courant. Et oui, mais il n'y a pas. Le philosophe ne peut pas dire par lui-même qu'il y a un désir naturel de voir Dieu tel qu'il est. C'est impossible, parce qu'il est une créature. Il ne peut être que dans l'attente que Dieu se révèle. Ce serait sa plus grande joie, mais il ne peut pas le dire par lui-même. Vous voyez, je ne peux donc pas passer avec nécessité de l'adoration contemplative à la révélation, à la foi et à la vision béatifique. Non, il y a un abîme entre les deux. La foi et la révélation viennent de Dieu, par pure gratuité. Mais en adorant et en cherchant à connaître Dieu, si Dieu se révèle, ah mais c'est la plus grande joie pour moi. Et j'espère que vous voyez bien la nuance. Donc, quand on parle d'un désir naturel de voir Dieu, c'est de la théologie chrétienne. C'est pour le théologien, sachant qu'un jour je verrai Dieu dans la vision béatifique, je vois que dans cette lumière, toute recherche de vérité, c'est une attente de cela. Donc c'est un désir, mais je ne peux pas le dire par moi-même. Il faut être très, très précis là-dessus. Oui. J'espère que vous voyez bien, je dis ça en passant. Alors je voudrais, vous voyez, pour conclure, vous lire un petit texte qui, je crois, est très beau, un texte d'Aristote. Il y aurait beaucoup à dire. Oui. Si on voulait, on voudrait lire 3 ou 4 chapitres. Donc, Aristote montre déjà que la contemplation est le bonheur plénier de l'homme. Vous voyez, donc, si l'amitié est le bonheur premier, fondamental de l'homme, et on a vu hier, de l'homme en tant qu'il est une âme, qu'il implique une âme unie à un corps. Donc vous voyez, c'est l'amitié qui est bien on peut dire le bonheur humain, et on pourrait dire pleinement humain. Le dépassement, vous voyez, que va réaliser l'adoration, et qui va s'ouvrir à la contemplation, va me faire comprendre que la contemplation, c'est le bonheur ultime de l'homme. Vous voyez, ce n'est donc pas le bonheur propre. C'est ce qui peut me donner la lumière ultime sur la fine pointe de mon intelligence. C'est pour ça qu'Aristote dit que la contemplation, c'est l'acte du nous, c'est-à-dire de l'esprit. Le corps ne contemple pas, c'est l'esprit. C'est donc une finalité ultime pour l'homme, qui a en quelque manière, dit Aristote, quelque chose de divin. C'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour l'homme, et en même temps, c'est comme au-delà de l'homme. C'est comme surhumain. Dieu seul possède la contemplation. Et tandis que l'amitié est proprement humaine, c'est vraiment le bonheur propre de la personne humaine en tant que par son corps, elle est engagée dans une cité, etc. Oui, c'est important de bien voir cette distinction. Alors je vais vous lire ce passage. Oui. Alors pour montrer déjà comment la contemplation et ce bonheur ultime de l'homme, Aristote donne plusieurs caractères. Je vous les résume, je ne lis pas tout le texte. En montrant pourquoi ça peut être le bonheur ultime. Alors je vous les note, puis je lirai après un texte qui me semble plus important. Alors il dit, d'abord cette activité est la plus haute, vous voyez, la plus élevée. Et la plus élevée pour l'homme, puisque l'intellect est la meilleure partie de nous-mêmes, et qu'aussi les objets sur lesquels porte l'intellect sont le plus haut de tous les objets connaissables. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus élevé, parce qu'on connaît la réalité la plus élevée dans la contemplation, qui est l'être premier créateur. Et donc, c'est exactement à cela que Hegel s'oppose. Aristote dit, la contemplation est l'activité la plus élevée parce qu'elle a pour objet la réalité la plus élevée. Donc oui, je ne peux pas avoir une activité plus noble que celle-là. Oui, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. La contemplation nous fait fréquenter Dieu. Oui, donc mets dans notre cœur la taille de Dieu. C'est pour ça que Aristote dira que la magnanimité, c'est la vertu morale qui est le fruit de la contemplation dans la vie humaine. Si je contemple Dieu, je deviens magnanime. C'est-à-dire, j'ai une vision grande des choses. Je ne suis pas mesquin, pusillanime. Ensuite, elle est la plus continue. Et c'est l'activité la plus continue. Ah, vous n'auriez jamais dit ça. Mais la plus continue, pourquoi? Parce qu'elle n'implique pas de fatigue. Elle exige un très très gros effort intellectuel, c'est évident. Mais comme telle, elle est au-delà du devenir. Donc elle est comme continue. Car nous sommes capables de nous livrer à la contemplation d'une manière plus continue qu'en accomplissant n'importe quelle action. Vous voyez, pourquoi est-ce que toutes les autres actions qui impliquent le corps impliquent la fatigue? Et donc, je ne peux pas travailler de manière continue. Non, il y a une limite à cause du corps. La contemplation est au-delà du conditionnement du corps. Elle est purement spirituelle. Donc, elle est la plus continue. Elle est encore celle qui est la plus source de plaisir. Et donc, c'est l'activité la plus source de plaisir et de joie. Et c'est ça que retiendra Épicure. Pour Épicure, il ne retient que cet aspect. Parce que vous voyez, quand on parle des pourceaux d'Épicure, attention, Épicure, c'est pas du tout le plaisir grossier. C'est la recherche de l'esthétisme dans le plaisir. Et donc, vous voyez, Épicure dit que la plus grande joie, c'est la contemplation. Donc, Épicure cherche la contemplation. Mais au lieu de regarder celui qu'on contemple et celui qu'on aime, il regarde uniquement la joie que j'y trouve. Et on retrouve un aspect de jouissance. Vous voyez, donc, il y a l'amitié de jouissance qui vient corrompre l'amitié. Il y a un amour, entre guillemets, par rapport à Dieu et une contemplation qui fait qu'on s'arrête à la joie qu'on y éprouve, au lieu de chercher à connaître vraiment Dieu. Elle est ensuite celle qui nous donne la plus grande indépendance. Et c'est vrai, je vous ai déjà montré ça hier. L'adoration nous rend, et la contemplation nous rend indépendants par rapport à tout le reste. Donc on n'a plus besoin de ses semblables, dit-il. Cependant, il dira que l'homme qui contemple est celui qui a le plus besoin d'amis, parce qu'il doit communiquer ce qu'il contemple. En outre, elle est seule qui est la seule, elle est l'activité qui est la seule à être aimée pour elle-même. Oui, donc cinquième caractère, elle est aimée pour elle-même, de manière plénière. Donc vous voyez, ça c'est bien la fin ultime. La fin ultime est celle qui est aimée pour elle-même, indépendamment de tous les avantages qu'on en retire. En outre, elle est celle qui donne le plus de repos. Oui, le bonheur semble consister dans le repos. Alors, vous voyez, ce n'est pas le repos, dormir, c'est pas ça. C'est dépasser l'activité pénible. Les Grecs opposent toujours la skolé, hein, le repos, le loisir, hein, et le labeur. Et ce n'est pas une activité artistique, c'est un autre registre. Donc elle est celle qui donne le plus le repos. Et parce que Dieu est au-delà de toutes les vicissitudes. Hein. T'as dit que l'ami peut mourir. Enfin, elle implique... Il résulte cette dernière que c'est cette dernière qui sera le parfait bonheur de l'homme. Hein, oui, teleia eudaimonia, le bonheur ultime de l'homme. Hein, quand elle est prolongée pendant une vie complète. Donc vous voyez, le septième élément, c'est du côté du conditionnement. La contemplation pour être le bonheur parfait de l'homme implique, exige une durée. Et ce n'est pas un seul acte de contemplation qui me donne le bonheur. C'est de durer dans cette activité. Hein. Alors, vous voyez, je voudrais maintenant vous lire un petit passage pour conclure, et puis j'y reviendrai cet après-midi, hein, qui est quand même très extraordinaire. L'homme qui exerce son intelligence. Et vous voyez, pour montrer comment... Aristote ne parle pas de l'adoration, parce qu'il est dans un contexte de tradition religieuse. Donc, mais il spécifie davantage, hein, la dimension de la contemplation. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. Hein, qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qui est intéressant à préciser. Hein, Aristote n'éprouve pas le besoin de parler de l'adoration. Oui, comme je vous ai dit hier, parce que la prudence par rapport aux traditions religieuses fait qu'on adore. Mais dans cette adoration, il y a l'émergence de l'intelligence faite pour la vérité. Et c'est ça qui finalise pleinement. Donc Aristote dit ceci. L'homme qui exerce son intelligence et qui la cultive semble être à la fois dans la plus parfaite disposition et le plus cher aux dieux. Si en effet, les dieux prennent quelque souci des affaires humaines, ainsi qu'on l'admet d'ordinaire, il sera également raisonnable de penser, d'une part, qu'ils mettent leur complaisance dans la partie de l'homme qui est la plus parfaite et qui présente le plus d'affinité avec eux. Ce ne saurait être que l'esprit. Et d'autre part, qu'ils récompensent généreusement les hommes qui chérissent et honorent le mieux cette partie, voyant que ces hommes ont le souci des choses qui leur sont chères à eux-mêmes et se conduisent avec droiture et noblesse. Or, que tous ces caractères soient au plus haut degré l'apanage du sage, cela n'est pas douteux. Il est donc l'homme le plus aimé de Dieu. Et ce même homme est aussi vraisemblablement le plus heureux de tous. Par conséquent, de cette façon, encore, le sage sera heureux au plus haut point. Oui, c'est très très beau. Que la recherche de la contemplation implique un regard de Dieu par rapport à nous, de Dieu comme providence. Dieu, hein, s'occupe des affaires humaines. Et donc, ce dont il s'occupe le plus, c'est dans notre esprit, cette recherche ultime de la vérité, parce que c'est lui, la vérité première. Et donc c'est pour ça, c'est très très extraordinaire, hein, qu'il y a chez Aristote, dans une éthique religieuse, comme ce regard, comme ce pressentiment, que Dieu comme Père veille sur notre esprit. Et l'homme qui cherche Dieu est le plus aimé de Dieu, c'est très beau. Hein, l'homme, qui, hein, ce même homme, il est donc l'homme le plus aimé de Dieu. Hein, il dit même le plus chéri, oui, de Dieu. Il y a un amour de prédilection, parce que c'est l'adoration qui nous ouvre à la contemplation. Et la contemplation, c'est ce qui est propre à Dieu. Donc chercher la contemplation, c'est chercher ce qui est propre à Dieu. C'est ainsi avoir une certaine connaturalité avec lui. C'est s'apparenter à lui, s'approcher de lui. Ce qui ne peut pas exister sans que Dieu soit présent près de nous comme un père. Ce qui est mis à la providence. La providence, c'est Dieu comme père qui veille sur l'esprit qui vient de lui. L'esprit comme tel, comment est-ce que je veux dire? La création porte sur l'essai. Dieu est Père de notre esprit. Et comme Père, il veille sur le bonheur pour lequel notre esprit est fait ultimement, qui est la contemplation. Vous voyez, je n'ai pas lu tous les passages, j'y reviendrai cet après-midi. Aristote montre avant que la vie contemplative est celle qui est propre à Dieu. Et donc, en cherchant la contemplation, nous cherchons ce qui est propre à Dieu. Et il y a comme une parenté de nous avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire, vous voyez, que nous sommes plus proches de Dieu au point de vue métaphysique et au point de notre finalité spirituelle que de nos propres parents. Notre esprit est plus apparenté à Dieu qu'à nos parents. Nos parents ne sont pas source de notre esprit. Ils ont été source de notre vie et de notre corps. Et Dieu a répondu en créant une âme spirituelle. Et donc notre esprit vient de Dieu. Il est plus apparenté à Dieu qu'à nos propres parents. Et donc c'est très fort, vous voyez, cette proximité, hein, ce regard que donne l'éthique religieuse. Et c'est ça qui donne une liberté et une indépendance souveraine. Dans mon esprit, je dépends plus actuellement et plus immédiatement de Dieu que de n'importe qui d'autre. Et ça, c'est la contemplation qui me le fait saisir. Et pour le vivre, la pierre fondamentale qui me permet de m'élever jusque-là, c'est l'adoration. Et donc la contemplation, c'est comme une espèce d'ouverture, voyez, hein, de dépassement. Elle ne peut être vécue pour nous que grâce à l'adoration. Et c'est l'adoration qui nous ouvre à la contemplation. En aimant Dieu, dans l'adoration, il m'est présent et j'ai le désir de le connaître. Donc j'attends, et je suis suspendu à lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.